C'est la chronique d'André Lacombe, l'éphéméride du 18 août 2026. André, bonjour.
Bonjour.
Oui. Alors, on débute avec des thèmes de la journée mondiale et le prénom du jour.
Alors, journée mondiale, deux journées mondiales aujourd'hui. Il n'y en a aucune qui est officiellement reconnue par l'ONU, mais il y a quand même deux événements bien établis. Alors, d'une part, la journée mondiale de la recherche sur le cancer du sein, selon la fondation Dr. Susan Love, qui est établie en Californie, en passant depuis 1983. L'objectif, c'est de mettre en lumière les efforts scientifiques mondiaux pour vaincre cette maladie. Et je rappelle que le cancer du sein, c'est le plus répandu chez les femmes. Donc, ça en fait un sujet de première importance.
Mm-hmm.
D'autre part, selon l'organisme canado-américain Never Give Up Day, c'est la journée mondiale de la persévérance qui est célébrée depuis 2019 dans de nombreuses communautés, tant au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Grande-Bretagne. L'objectif, promouvoir l'importance de la persévérance dans l'atteinte de nos objectifs, au-delà du talent et de la chance, et surtout de ne pas abandonner dans les moments difficiles.
Ouais,
c'est bon de se le redire, ça, des fois.
C'est bon de se le redire, c'est bon de savoir que, ben oui, on lâche pas.
On lâche pas.
On lâche pas. Et puis, c'est la journée...
des Hélènes.
Oui.
Aujourd'hui, c'est le prénom du jour. Alors, grâce à Sainte Hélène, qui était la mère de l'empereur romain Constantin, et à ce qu'on dit généreuse chrétienne qui fit construire trois basiliques pour protéger les lieux saints et les grottes mystiques. Et le prénom Hélène serait un dérivé du mot grec « hélé », qui signifie « chaleur », qui vient sans doute de « hélios »,
ben oui,
le soleil, donc la chaleur du soleil.
La chaleur du soleil. Ben on peut le dire, notre Hélène, à nous, elle est chaleureuse.
Chaleureuse, et lumineuse, comme le soleil.
Tout à fait. Alors, ça s'applique.
Tout à fait.
On va poursuivre avec quelques faits marquants qui sont arrivés un 18 août.
Oui, on reste dans le thème du soleil. Vous allez voir pourquoi. En 1868, découverte de l'hélium par l'astronome français Jules Janssen. Et c'est en observant une éclipse solaire qu'il découvre dans l'atmosphère du Soleil un gaz jusque-là inconnu et qui sera appelé hélium justement par référence au grec hélios pour le Soleil. Tout est dans tout.
Ah, je dis,
Denis Martin.
Ah, tout est là. Aujourd'hui, là, c'est toutes les coïncidences, toutes sont là.
Oui, tout est là.
Ah, écoute, on va nous accuser de complotisme si ça continue.
Ça continue. En 1914, à peine un mois après le début de la Première Guerre mondiale, le gouvernement conservateur canadien de Robert Borden fait adopter la loi sur les mesures de guerre qui accorde au cabinet fédéral des pouvoirs extraordinaires pour gouverner par décret, ce qui va entraîner la suspension des libertés civiles, l'instauration de la censure et l'internement de milliers d'étrangers vus comme étant des ennemis. C'est une page sombre de l'histoire canadienne.
Une loi qui a été appliquée plus tard, lors de cette fameuse crise de 1970.
Ah, mon Dieu, oui. Ça aussi, c'était plutôt sombre.
Je pense que la loi a été modifiée. C'est les mesures d'urgence maintenant.
Maintenant, on parle de mesures d'urgence, effectivement.
Ouais.
En 1930, le chien Pluto fait sa première apparition dans un film d'animation de Disney. En 1944, c'est la fin du gouvernement de Vichy, qui a été créé en 1940 par le maréchal Pétain suite à la capitulation de la France face à l'Allemagne. Et ça, c'est vraiment un événement qui revient dans l'actualité ces jours-ci, avec la sortie du film « La bataille de Gaulle », qui vient mettre en lumière le rôle déterminant joué par le général Charles de Gaulle dans la résistance face à l'ennemi. Très important, ça, dans l'histoire.
C'est un biopic, et je crois, ce que j'ai lu, parce que je n'ai pas encore vu le film, mais j'ai lu qu'il y aura une suite ou deux suites à ça.
Une suite, le 11
deux
septembre.
Suites,
ouais, c'est un diptyque.
Un diptyque.
Qu'ils appellent.
Okay.
Ouais.
Voilà.
Un film en deux parties. En 1954, Washington et Ottawa s'entendent pour réaliser la voie maritime du Saint-Laurent, qui sera inaugurée en avril 1959. Comme quoi, c'était possible à l'époque de s'entendre avec les Américains. En 1966, début de la révolution culturelle chinoise menée d'une main de fer par Mao Zedong ou Mao Tse-tung, selon la façon dont on le prononce, fondateur et premier dirigeant de la République populaire de Chine. On parle ici d'une révolution prolétarienne qui s'en prend au symbole du passé, rejette l'influence occidentale et détruit les installations dites « bourgeoises ». Et chacun se doit de lire avec beaucoup d'attention le petit livre rouge des pensées de Mao, le petit catéchisme.
Ouais.
C'était vraiment quelque chose, cette époque-là.
Petit livre que j'ai encore à la maison.
Ah oui?
Oui, oui,
c'est ça.
Ben, écoute, on fait quand même des recherches, puis on doit savoir un peu de quoi on parle.
Absolument.
Et c'est intéressant parce que Mao a changé beaucoup, beaucoup de choses en Chine. Par exemple, il n'y a qu'un seul fuseau horaire, c'est le fuseau horaire de Beijing. En fait, quand on dit Pékin, mais Beijing, la ville du Nord, puis Nanjing, la ville du Sud. Uh-huh. Alors, il y a beaucoup de choses. C'est un pays fascinant.
Absolument.
Ouais.
En 1977, Stephen Biko, un étudiant militant anti-apartheid noir sud-africain, est arrêté par la police, puis détenu et torturé. S'entraîne son décès moins d'un mois plus tard, le 12 septembre. Et la polémique déclenchée par l'événement débouche sur la condamnation du régime sud-africain et sur l'embargo des ventes d'armes à destination de l'Afrique du Sud, qui est voté par le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est vraiment la bougie d'allumage qui a entraîné la chute du gouvernement anti-apartheid.
Mm-hmm.
Gouvernement d'apartheid. De l'apartheid, oui. Pardon. Et en 2006, pour terminer les événements, des archéologues annoncent la découverte des vestiges de la première colonie française au Québec sur le promontoire de Cap-Rouge. C'est la colonie de Cartier et Roberval, qu'on appelle aussi Charlebourg-Royal, qui a été occupée entre 1541 et 1543.
Ouais, c'est un petit bout, hein?
Fait un bon petit bout de ça, mais c'est une page importante de notre histoire.
Bon, alors on va continuer maintenant avec quelques dates d'anniversaire.
Côté anniversaire de naissance, en 1909, Gérard Filion, ex-directeur du journal Le Devoir, reconnu notamment pour sa lutte contre le régime autoritaire de Maurice Duplessis dans les années 1950. En 1929, le chanteur français Hugo Frey, hein, des ballades romantiques comme Céline et autres, mais il est toujours de ce monde, Hugo Frey, il a 97 ans aujourd'hui quand même.
Quand même!
Hein? Mm-hmm. En 1933, le réalisateur de cinéma polonais né à Paris, Roman Polanski, à qui l'on doit notamment les films Rosemary's Baby, Le bal des vampires, Le pianiste, qui avait eu le César du meilleur film en 2003. Il vit principalement en France maintenant depuis longtemps, Polanski, depuis ses démêlés avec la justice américaine à la fin des années 1970.
Oui, il est accusé d'inconduite sexuelle. Hein?
Oui, tout à fait, avec une mineure. Mmh. En 1959, l'auteur, compositrice et interprète gaspésienne Laurence Jalbert, 67 ans aujourd'hui, on lui souhaite bonne fête.
Oui.
Et côté décès, là, je vous ramène très loin en arrière, Denis Martin, 1227.
J'étais tout jeune à l'époque.
Vous étiez très jeune. Moi aussi, d'ailleurs. Le premier empereur mongol, Genghis Khan. Mmh. Hein, un génie politique et militaire, ça lui permet, semble-t-il, de conquérir la Chine, la Russie, la Perse, le Moyen-Orient et un territoire qui correspond à l'actuelle Europe de l'Est. Il a établi ainsi le plus vaste empire de tous les temps.
Quand même.
Tout un conquérant. En 1823, hein, quelques années plus tard, l'inventeur du parachute et premier parachutiste de l'histoire, le Français André-Jacques Garnerin. Il effectue le tout premier saut de l'histoire en 1797 au-dessus de Paris depuis un ballon à hydrogène. Et non, il n'est pas mort lors d'un saut en parachute, je vous l'affirme.
Vous savez ce qu'on dit, hein? L'esprit, c'est comme un parachute pour qu'il fonctionne.
Il faut qu'il soit ouvert.
Il faut qu'il s'ouvre. Voilà. On continue encore du temps, là.
En 1850, le prolifique écrivain français Honoré de Balzac.
Mm-hmm.
Auteur d'une œuvre monumentale, La comédie humaine. Quand je dis monumentale, plus de 90 romans, contes et nouvelles, 46 œuvres inachevées ou restées à l'état de projet. Je pense qu'en dehors d'écrire et dormir, il ne faisait pas grand-chose. Son ambition, c'était de décrire de façon exhaustive la société française de son temps. Je pense qu'on peut dire que ça a été exhaustif.
Oui.
En 1919, le Canadien Joseph Seagram, fondateur de la distillerie qui porte son nom jusqu'à sa vente en 2001. Mais elle fut vendue, cette distillerie, une première fois à la famille Bronfman de Montréal en 1928, et eux avaient conservé le nom, Seagram.
Et on continue.
En 1940, Walter P. Chrysler, fondateur de la Chrysler Corporation en 1925. En 1998, Otto Wichterle. Qui est ce monsieur? Ben, c'est l'inventeur des lentilles de contact. Hein, on lui doit quand même quelque chose d'important. En 1961, ça, cette invention-là. En 2006, le chanteur et aussi comédien québécois, notre crooner, Fernand Gignac. Plus de 50 ans de carrière, 31 albums, 75-45 tours. On dit que c'est un record canadien pour un interprète. Et en 2024, pour terminer, l'acteur français Alain Delon.
Ouais.
Depuis 1956, Il a attiré en salle plus de 60 millions de spectateurs en jouant dans 87 films. Acteur les plus rentables du cinéma français avec De Funès et Belmondo en son époque.
André Lacombe, on termine là-dessus. À la prochaine.
À la prochaine.